Une vie, une œuvre, Cy Twombly, 1928 États-Unis, 2011 Italie. Cy Twombly est né à Lexington, en Virginie. Il emprunte son nom à Edwin Parker Twombly, son père, professeur de sport et joueur de baseball, surnommé Cy pour Cyclone. Dès les années 50, il fréquente le Black Mountain College. Il côtoie notamment Franz Klein, le poète Charles Olson, John Cage et Merce Cunningham. Encouragé par Robert Rauschenberg, il entreprend avec lui, entre 1952 et 1953, un voyage de 8 mois en Europe et en Afrique du Nord, où il est rejoint Paul Bowles. À cette époque, quelques lettres et signes commencent à apparaître dans son travail. En 1957, il décide de s'installer à Rome. Et c'est en 1960 que la galerie Léo Castelli à New York lui consacre entièrement une exposition. Les années qui suivent alterneront entre succès flamboyant et critiques venimeuses. Ses outils, le pinceau d'abord, puis le graphite, le crayon. Il dessine, peint, colle, mais aussi sculpte. Cy Twombly déjoue le regard par ce que certains ont nommé gribouillage ou graffiti. Il décourage le langage. Roland Barthes lui reconnaît l'art de gauchir. Julien Rosa signe, avec Gaël Gillon, Une vie, une œuvre, Cy Twombly.
Cy Twombly, l'art est un poème.
Je me souviens par exemple d'une sculpture au musée qu'il avait prêtée, et le jour où les œuvres étaient arrivées, sortaient des caisses, vous savez, c'est le jour de panique complète, on ne sait jamais s'il y a une œuvre qui va être cassée, fragile, blablabla. Enfin, c'était très inquiet, très la panique totale, et puis il me dit, mais where is my Picasso? Où est ma petite tasse d'absinthe alors? Et je vois une sculpture d'un mètre de haut qui n'avait rien à voir avec ça, mais effectivement, dans la construction, il y avait quelque chose d'assez cubiste comme ça. Et il y avait une espèce de base, un socle avec un cœur en papier qu'il avait agrafé comme ça, où il y avait écrit Snafu. Et je lui dis, mais que veut dire Snafu? Rien. Je savais bien que ce n'était pas vrai, mais voilà. Et l'exposition avait lieu en mai, juin, juillet, mais rien, personne. Et je crois que peut-être la fin de l'exposition, je fais venir un groupe de gens très âgés américains. Et un monsieur arrive en éclatant de rire dans la salle, mais un monsieur très âgé, de l'âge de Cy Twombly, et je lui dis, oh, mais monsieur, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Il me dit, Snafu. Et je lui dis, mais quoi, Snafu? Et en fait, c'était un mot que les soldats s'évoquaient les uns après les autres pour avancer sur les lignes ennemies, et ça veut dire nothing, enfin, rien de spécial, as fucking usual, il n'y a rien à déclarer, quoi. Et c'était ça. Il me dit, voilà ma peinture, c'est ça, il n'y a rien à dire, c'est RAS.
Twombly, je l'ai eu au début de ma carrière.
Léo Castelli, 1985.
Il était un ami de Rauschenberg et de Jones, je l'ai eu et j'ai fait plusieurs expositions. Mais alors, le succès de Twombly était total, mais encore pire que n'importe qui. Je me suis un peu découragé, je dois dire. Et aussi, il est allé à Rome, il n'était plus sous la main, je n'avais plus le contact avec lui. C'est très important quand même. Et alors là, étant à Rome, étant en Europe, venant rarement en Amérique, c'est plutôt les marchands italiens et surtout les marchands allemands qui ont mis la main sur Twombly. De sorte que, après avoir fait quelques expositions encore, puis je l'ai plus ou moins perdu. Du reste, il n'est jamais là et on voit très peu de Twombly en Amérique. Et je pense que Twombly est un très très beau peintre, un très beau peintre. Il a aussi des prix extraordinaires maintenant, bien mérités. Je regrette maintenant de ne pas avoir acheté à ce moment-là quelques tableaux, de les avoir gardés, mais enfin, je ne l'ai pas fait. On fait des erreurs, par-ci par-là.
Cy Twombly a été finalement un peintre américain assez mal aimé aux États-Unis. Il ne correspondait pas, si on peut dire, au canon esthétique de l'époque. Et d'ailleurs, il n'a pas rencontré un immense succès au début de sa carrière, Charlemagne.
Il a été, alors pas mal aimé, enfin il faudrait savoir par qui exactement. C'est vrai que la critique, les critiques, disons, et les institutions comme me l'a dit un jour Twombly, ils n'ont jamais rien compris à ce que je faisais, à part quelques-uns quand même, notamment Frank O'Hara, qui était un poète et puis qui était proche, et quelques autres. Mais enfin, globalement, les critiques de l'époque, qui étaient d'ailleurs entièrement acquis, enfin la plupart du temps, à l'expressionnisme abstrait, voyaient d'un très mauvais œil les œuvres de Twombly, tout comme celles d'ailleurs de Rauschenberg. En revanche, il a toujours eu aux États-Unis des gens qui l'aimaient, le supportaient, mais notamment parmi les artistes. Mais il est vrai, y compris son galeriste, ce qui est devenu son galeriste à la fin des années 50, c'est-à-dire Leo Castelli, par exemple, n'aimait pas du tout un certain nombre d'œuvres que faisait Twombly. Moi, je soupçonne, enfin, je crois, en tout cas, Leo Castelli l'a dit pour la série des commodes, qui trouvait ça européen et sophistiqué et précieux, etc. Enfin, il n'aimait pas ça. Celui qui aimait Twombly, c'était Ivan Karp, c'est-à-dire l'assistant de Castelli. Et lui, il trouvait que c'était absolument extraordinaire. Mais il est vrai que Twombly, par son travail d'une part, et puis après parce qu'il est parti en Europe, ne correspondait pas à ce qu'on pouvait attendre d'une peinture qu'un critique américain qui s'appelle Clement Greenberg avait appelée typiquement américaine. C'est quelque chose qui était trop tourné vers l'Europe, trop intellectuel, trop européen d'une certaine manière.
D'un côté, la noblesse apollinienne des fragments de poésie et des convocations antiques. De l'autre, une pulsion de vie, un éclat de mots filiformes, de gribouillis, de coulures, de couleurs. Des images, presque mirages, où les traces dansent sur la toile. Un pêle-mêle précisément ordonné. Cy Twombly, c'est un geste qui dit « je suis là aussi pour moi-même ». Ça paraît trop facile, c'est de l'art ça ? Oui, c'est de l'art. De celui qui surgit et qui défie les premières impressions. Parcourir l'œuvre de Twombly des yeux et des lèvres, écrivait Roland Barthes, c'est sans cesse décevoir ce dont ça a l'air. Il a l'air de dire quelque chose et en dit mille autres à la fois. L'art de Twombly est autant instinctif que codifié. Il amuse, déconcerte, surprend, ennuie, émerveille. Des citrons flous et des roses dégoulinantes, des Vénus et des saisons, des tableaux noirs et des toiles salies de blanc. C'est ce qui peuple l'imagerie d'un homme qui scrute le monde, passé et présent, ici et là-bas. Dans l'œuvre comme dans la vie, les identités de Cy Twombly sont multiples et multicolores, avec sans doute pour couleur primaire les bleus des clapotis de la mer de Gaeta, son havre italien, et les rouges des façades en briques de Lexington, berceau pour toute la vie. Éric Mézil est directeur de la collection Lambert en Avignon.
On a souvent cru qu'il avait la fascination pour l'Italie, pour la Grèce, pour l'Antiquité, les antiques, on pourrait dire, était vraiment une chose un petit peu artificielle ou en tout cas décorative. En fait, ce que je ne savais pas du tout, j'ai découvert, on le lit très bien dans le livre sur le catalogue de Beaubourg, que son père avait été, même si c'était un grand sportif, avait aussi imposé qu'il apprenne le latin avec sa sœur, le grec, et lise des textes anciens. Et en fait, j'ai vu que, je l'avais vu dans sa bibliothèque, j'en avais parlé après, il connaissait tous ces grands textes, et s'il décide de faire un hommage à... bien sûr à Homère, mais aussi à Platon, enfin, c'est qu'il a lu tous ces classiques pour les passer après sur l'autre dimension qui est celle de l'œuvre d'art et de la toile.
Et puis ensuite il va aller à New York à l'Art Students League, c'est un cursus assez classique finalement, où il va rencontrer d'ailleurs Robert Rauschenberg.
Richard Lehmann.
Voilà, là où, et en fait à New York, l'Art Students League, comme souvent les écoles d'art, où y compris ici, c'est quelque chose qui n'intéresse pas beaucoup ni Rauschenberg ni Twombly, ils l'ont dit. Ils vont surtout dans les galeries et dans les musées, et c'est là qu'effectivement les choses se font. C'est là que par exemple Twombly découvre des gens extrêmement importants pour lui ensuite, comme Archaïl Gorki ou Roscoe, des choses comme ça.
Jonas Torsvi est conservateur du cabinet d'art graphique du Centre Pompidou.
Jasper Johns, Robert Rauschenberg et Cy Twombly sont vraiment les trois artistes qui réagissent les premiers contre l'expressionnisme abstrait américain. Rauschenberg, il fait fort, il va carrément chez de Kooning, il frappe à sa porte. Et il obtient en cadeau un dessin qu'il gomme complètement. Ce qui est quand même un acte assez fort et assez révélateur. Et si vous regardez le travail de ces trois artistes, notamment dans les années 50, on voit comment ils, tous les trois, chacun à sa manière, opèrent vers un, je dirais, un degré zéro de la peinture, pour ensuite la réinventer d'autres façons. On sait par exemple que très tôt, il y a des discussions entre Rauschenberg et Twombly à propos de la possibilité d'une peinture blanche.
Ah, pour moi, c'est vraiment l'art de la liberté le plus total, et c'est en cela que c'est un des plus belles artistes et des plus artistes les plus atypiques de cette deuxième partie du XXe siècle. Et alors, vraiment, dès le début, on voit qu'il est le fruit de son époque, donc il est dans l'expressionnisme abstrait. Et n'oublions pas qu'il a été étudiant au Black Mountain College avec des gens comme John Cage, avec tous ces gens qui étaient issus du Bauhaus, qui étaient professeurs, et donc c'était quand même... Vous imaginez, ça devait être génial avec Rauschenberg comme copain, enfin, ça devait être absolument génial comme chose. Et donc on voit bien sûr qu'il y a du Klein, qui était professeur aussi, avec ses peintures très noires et blanches, comme ça qu'on avait comme dans l'expressionnisme abstrait de l'époque. Mais très vite, et grâce au voyage en 52 qu'il fait avec Rauschenberg au Maroc et après en Méditerranée, il s'en extrait complètement et il fait un pied de nez qu'on lui fera payer très très cher à la peinture dite américaine. Il fait une peinture résolument, on va dire, européenne, ou en tous les cas complètement intemporelle. Et il va d'ailleurs quitter l'Amérique pour s'installer en Europe, on va dire. Et je suis toujours étonné des trois copains de l'époque, et qui étaient vraiment copains, hein, Rauschenberg, Jasper Johns et lui-même. Jasper Johns, en 64, il a une reconnaissance internationale avec les premières targets, les premiers drapeaux et les premières œuvres avant même le pop art, et c'est lui qui les commence en 62-64. En 64-65, Rauschenberg a le Grand Prix de la Biennale de Venise. C'est la première fois qu'un jeune Américain de moins de 40 ans a le Grand Prix de Venise, et Twombly n'a rien. Il faudra qu'il attende 20-30 ans. Il n'était pas d'ailleurs, il n'avait pas d'amertume par rapport à cela. Hein. Il avait choisi une vie pas monacale, c'était une vie à l'italienne, reculée. Et c'est vrai qu'il avait, il aimait la modernité romaine. Puis après, il partait s'isoler, travailler à Gaeta. Il était complètement joyeux dans sa peinture.
Il a dit dans une interview, je crois, avec Nicolas Serrota, que la couleur ne l'intéressait pas tant que ça. Est-ce que faut le prendre au premier degré, ou c'était encore un des mots d'humour de Cy Twombly?
Vraiment, il faut jamais le prendre au premier degré. Je me souviens d'une des premières discussions où j'étais très intimidé. L'homme était très intimidant, il était très grand, il était très taiseux, très très taiseux, avec une espèce d'humour, pas anglais, c'est américain, mais anglo-saxon, comme ça, très... Effectivement, comme vous, la phrase que vous dites, la fin de l'exposition n'est qu'une explosion de couleurs, donc s'il n'aimait pas la couleur, ça n'était pas... Et je me souviens d'avoir posé une question, je ne savais pas quoi lui dire. J'étais très embarrassé, très inquiet, et je lui dis, mais... Je lui dis, est-ce que tu es... Are you collector? Est-ce que vous êtes collectionneur? Il me dit, of course not! Et il y avait, mais partout chez lui, des œuvres d'art, mais partout. Et je me dis, bon, d'accord, le personnage va être complexe, mais on va... Il va falloir qu'on s'amuse avec lui, on va travailler comme ça. Et on a bâti une relation comme ça, très amusante, où en fait, c'était des discussions à tiroir, à secret.
Est-ce que l'apprentissage du signe et de la manière de dessiner, du coup, de Twombly, il a pu, a pu être influencé, en tout cas, par son passage à l'armée, où il avait une fonction particulière?
Bon, on l'a collé au service de cryptographie, mais il l'a dit lui-même qu'il n'a rien appris là-bas, c'était un cauchemar, parce que la moindre erreur pouvait donner lieu à des soupçons d'espionnage et ainsi de suite. En revanche, quand il était à Augusta pendant son service militaire, il a raconté qu'il s'enfermait dans le noir pour faire des dessins. Et ça, c'est là, oui, alors c'est pas au service, enfin c'était pendant son service, mais enfin il a été vite... mis en hôpital psychiatrique et puis ensuite réformé, etc. Mais en revanche, ce qu'il a fait pendant son service militaire, c'est des dessins d'ailleurs absolument extraordinaires qu'il faisait dans le noir pour libérer précisément la main de l'œil. C'est là que ça a commencé. Lui-même a dit d'ailleurs que les dessins qu'il a fait à ce moment-là, et ce qui est très intéressant, même si c'est tragique d'une certaine manière, c'est que c'est pendant une période sombre de sa vie, puisqu'il était très profondément déprimé, qu'il a commencé par trouver son vocabulaire. Et à partir de là, il formalise... Et ça commence par du gribouillis, justement.
Il éteignait la lumière dans la pièce et essayait de reprendre les écritures codées dans la journée, et en faisait une sorte d'écriture automatique. Et ça l'a complètement libéré comme cela de l'expressionnisme abstrait américain pour en faire ces fameuses écritures, ces fameux dessins comme ça, qu'il, des tableaux noirs d'écoliers comme ça qu'il faisait. Et la notion de code, la notion de choses qui ne sont pas comprises, était au cœur de son travail. Et moi, quand je dormais chez lui, je dormais chez son ami Nicolas, qui était, la maison était en face, et on voyait la fenêtre de Twombly. Et Twombly, souvent le soir, ne dînait pas avec nous, il peignait ou il se reposait. C'était un monsieur quand même qui était âgé. Et le dernier Noël, il y avait toujours il avait un côté très enfantin, donc il y avait des guirlandes de Noël. Et à un moment, je crois que je fumais une cigarette, donc je m'étais mis dehors pour regarder par la fenêtre, et j'avais dû crier son nom. Et il ne m'avait pas répondu, mais genre, c'est un peu Roméo et Juliette, c'était un peu ridicule quand même. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'il a commencé à faire clignoter la guirlande lumineuse. Au départ, je me suis dit peut-être qu'elle ça marche de manière automatique. J'ai bien vu que c'était pas du tout, il faisait vraiment un code. Que bien sûr, je l'ai absolument pas pu comprendre. Et le lendemain matin, petit déjeuner, mais il se régalait de me dire « Alors, tu as compris ce que je t'ai dit ?» Bien sûr que non. Mais c'était ça. C'était cette manière comme ça qu'il avait de trouver des moyens de décoder, de faire discuter, de faire dialoguer les gens. Et puis du coup, qu'on l'aime profondément, parce qu'il était formidable.
Marie-Laure Bernadac est conservatrice générale du patrimoine, chargée de l'art contemporain au musée du Louvre de 2003 à 2013.
Il y a toujours un sujet, dans les peintures les plus abstraites, dans l'écriture, dans quelque chose. Évidemment, ce n'est pas le sujet de la peinture existe toute seule, mais elle est toujours plus ou moins inspirée par un poème, par une émotion, par d'où ses références à des noms, à des histoires, très discrètes, c'est jamais illustratif, mais on associe dans notre émotion, et je crois qu'on est très très ému quand on découvre la peinture de Twombly, on se demande d'où vient cette émotion. Pourquoi est-ce qu'on est ému? Par cette spontanéité du geste, qui est très proche de la spontanéité, vraiment de l'émotion du dessin d'enfant au bon sens du terme, au sens très cultivé, maîtrisé. Mais on ne peut pas ne pas penser aux histoires qu'il veut raconter. Elles ont un sens, elles ont un contenu, que ce soit la guerre de Troie, la mort d'Adonis. Tout ça prend une dimension avec juste une inscription. Tout le passé, tout d'un coup, est présent dans la peinture contemporaine. C'est comme s'il arrivait à prendre dans son écriture, dans son geste, dans ses traces, dans les traces, il arrive à convoquer le passé et le rendre totalement présent dans la gestuelle, dans la picturalité. Enfin, pour moi, c'est un peu ça, Twombly.
Je me souviens d'une série entière qui est exposée aussi sur une bataille où il me décrivait, bien sûr, que cette bataille qui était, je crois que c'était la bataille de Thermopyles, il me disait bien sûr qu'elle rappelait fortement des grandes guerres qu'il pouvait y avoir en Afghanistan ou en Irak. Et donc pour lui, c'était, je me souviens parce qu'on parlait, le point de départ c'était de parler de Palmyre. Et de Palmyre, il m'avait dit j'ai eu la chance d'y aller parce qu'à l'époque on pouvait aller en Iran. J'avais fait un grand voyage en Afghanistan. C'était incroyable. Il avait été en Afghanistan rencontré Ali Boéti, qui avait fait un petit hôtel à Kaboul qui s'appelait One Hotel, et il était allé dormir dans cette chambre d'hôtel où il n'y avait qu'une chambre. Et après il est allé à Palmyre et il me disait c'était merveilleux, et il me dit bien sûr c'est des endroits où nous ne pourrons plus aller, il y a la guerre. Et il me dit tu vois, la guerre est présente dans mes tableaux. Donc c'est vrai que lui bien sûr prenait des guerres je dirais du deuxième siècle ou de la Renaissance pour évoquer peut-être un monde contemporain.
Les neuf discours sur Commode est un des cycles majeurs que Cy Twombly a réalisé. Il devait préparer fin 1963 une exposition à la galerie de Leo Castelli à New York, prévue pour le printemps, donc 64. Et je pense que le sujet pour ces neuf toiles lui est venu seulement avec l'assassinat de John F. Kennedy au mois de novembre 1963. Donc Cy Twombly, qui est un artiste qui s'intéresse de très près à l'histoire, il s'empare donc de ce sujet pour son exposition. Neuf toiles sur fond gris, clair, il y a un ordre, parce que chaque toile est numérotée, dépicte en quelque sorte neuf états psychologiques différents de l'empereur romain, et qui régnait, comme nous le savons, par la terreur, par l'assassinat, par le meurtre. Et s'il choisit ce sujet-là, c'est justement parce qu'il a très peur que l'Amérique ne succombe à la tentation de la violence en réaction à cet assassinat. Et donc, il crée cet ensemble, ce cycle, en ayant dans sa tête la photo de Jackie Kennedy et Jacqueline Bouvier, qui avait fait le tour du monde dans la presse, où on la voit debout dans son tailleur, totalement constellée de ce qui restait de la cervelle de son mari.
D'abord, Commode, c'est, ça s'intitule Nine Discourses, c'est-à-dire ce sont des discours. Alors, vous voyez, c'est compliqué parce que on a 9 tableaux et on a 9 discours sur Commode. 9 séquences, disons, qui chacune constitue un discours. Qu'est-ce que c'est qu'un discours? Comment interpréter ce titre? C'est surtout en rapport avec ce que l'on voit sur la toile. Par ailleurs, Twombly a lui-même évoqué Alain Robbe Grillet comme une source de son travail. Je crois que Twombly aimait la façon dont Robbe Grillet brisait les séquences narratives. La narration, en tout cas le récit plutôt, c'est quelque chose qui apparaît beaucoup dans l'œuvre de Twombly dans les années 60. Par exemple, dans tout un tas de tableaux où il y a des chiffres, quand on examine les chiffres, en fait, ils conduisent le récit.
Il expédie donc l'ensemble début 1964 à New York. Les Américains trouvent ça maniéré, désuet, voire européen. Il faut dire qu'à ce moment-là, l'Amérique s'intéressait avant tout au début de l'art minimal, au début de l'art conceptuel. Et une peinture comme celle-ci était très, très, très éloignée de leurs préoccupations. Si on veut faire un point de comparaison, je pense qu'il faut regarder du côté de Francis Bacon pour trouver une intensité et une violence comparables.
Est-ce qu'on sait si ça l'a affecté particulièrement, cette mauvaise réception de cette œuvre?
Il dit lui-même que c'était une bénédiction. Que du coup, que plus personne ne s'intéressait à lui, que l'on lui foutait la paix, et comme ça, il pouvait faire exactement ce qu'il avait envie de faire. Je pense que c'est une version un peu courte. Je pense qu'il a été sérieusement affecté. Si vous regardez dans le catalogue raisonné de ses peintures, pour l'année 65, il n'y en a pas une. Et lorsqu'il se remet à la peinture, début 66, c'est en effet très, 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 très différent. C'est une peinture très austère, entre guillemets minimaliste, sur fond gris, mais sur un fond gris peint. C'est-à-dire, ce n'est pas comme un tableau d'école uniforme. Non, le peintre reste très très présent, mais il réduit ses moyens considérablement. Il travaille avec un crayon à la cire, donc la couleur blanche, sur ce fond noir, et il fait ça pendant 4-5 ans en fait.
Souvent chez lui en Italie, comment était présente l'œuvre? Est-ce qu'il y avait un studio ou est-ce qu'elles étaient accrochées partout? Comment ça se présentait?
Alors, ce qui était formidable, et ça c'était un choc pour n'importe qui enfin, dans le milieu de l'art, on va dire, qui a l'habitude d'aller voir effectivement beaucoup l'atelier d'artistes, c'est que ce n'était absolument pas l'atelier d'artistes. D'abord, c'était à l'image de ce que l'on voit dans ses peintures, c'était une sorte de galerie de salle, enfin des salons, d'enfilade de salons, avec des immenses fenêtres ouvertes sur la mer et le ciel. Donc c'était vraiment, je dirais, le carré de bleu du ciel ou le carré de bleu de la mer. Et ça, c'était vraiment, on comprend bien, on a une série d'œuvres, nous, dans la collection qui s'appelle Les Trois Dialogues de Platon, avec des grands monochromes, avec ces deux bleus distincts de la mer et du ciel, et on voit que c'était sa nourriture quotidienne, quoi. On sent, il s'abreuvait vraiment de ce regard sur la mer, et il y voyait, lui, les batailles de la guerre de Troie. Il y retrouvait vraiment toute la mythologie grecque et romaine à travers la vue de sa maison. Et ce n'était pas l'atelier. Moi, j'étais très étonné. Il y a à Beaubourg les Quatre Saisons, un chef-d'œuvre qui appartient maintenant à la Tate moderne de Londres. C'est difficile à croire. sachez que chaque saison a été peinte l'une après l'autre sur un bout du salon, parce qu'il faisait, il accrochait sa toile sur un mur où il avait enlevé une petite tenture 18e, il peignait cette œuvre et puis il l'enlevait, c'était le printemps et puis l'été, l'hiver et puis après l'automne et après hop, l'été, le grand appartement de Rome, c'était pareil, un bout de l'atelier, enfin un bout du salon, il y avait une colonne romaine, un divan et puis à côté il y avait un morceau de, on dessinait par terre ou sur une table, mais il n'y a jamais eu d'atelier. Je dirais que le premier atelier qu'il a acquis, c'était pour l'exposition Blooming en 2007, où là, il fallait effectivement, comme chaque panneau faisait, enfin chaque œuvre faisait des panneaux de 7 mètres de long, donc là, il avait loué le temps de l'exposition, mais ça ne l'intéressait pas, et il n'avait pas l'assistant, il n'avait pas... Ça, c'était une chose aussi très formidable que j'ai apprise et qui m'a... Cette humilité, mais dans tout, par exemple, je lui... Il pouvait être très dur, qu'est-ce que j'ai pu me faire engueuler, oh mon Dieu, mais... Jean Guillet, je ne suis pas masochiste, donc je prenais sur moi et je revenais à la charge et je m'en excusais et je comprenais ce qu'il voulait dire à chaque fois. Mais c'est vrai que j'avais eu la bêtise de poser des questions tout le monde sur les couleurs, sur les matériaux qu'il utilisait. Et en fait, il s'en moquait complètement. Il disait, mais moi, je suis l'alchimiste. Et c'est vrai que c'était, si vous voulez, il prenait des planches de bois qui étaient, qu'on prenait chez le Castorama du coin, je dirais, mais à 3 euros. Et c'est pas parce que du tout, par radinerie, c'est que ça l'intéressait absolument pas. C'était lui qui, par son travail, la maestria de sa main et de ses gestes, de son métier de peintre, allait transformer, comme les alchimistes, le plomb en or, quoi. Donc c'était vraiment, c'était cela. Et tous les matériaux qu'il utilisait, et la gouache, c'était de la gouache ou de l'acrylique la plus basique, et ça ne l'intéressait pas. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de faire de l'or avec ce qu'il avait dans les mains. L'intérieur de sa maison était rempli de tout ce qu'on aime de décoration, parce qu'il y avait des lits à baldaquin, il y avait des soieries qu'il avait pu acheter dans des voyages en Inde, ou des kimonos japonais, c'était pas un, il y avait 10 kimonos qui pendaient sur un lit. Moi, c'était juste merveilleux, une vieille sculpture sublime d'un faune un peu baroque, un peu trop kitsch, enfin un peu baroque, mais qui était merveilleux, qu'il a souvent photographié d'ailleurs en plusieurs détails. Et puis il y avait des bouquets de chrysanthèmes pour rappeler Kaiba, mais qui était complètement laissé là depuis un an ou deux. Et puis parfois il y avait quelques feuilles d'aquarelle sur lesquelles il peignait, et puis bien sûr des livres sur Braque, sur Picasso, sur l'architecture gréco-romaine, sur Borromini. Enfin, c'était un fou, un passionné, c'était vraiment un homme merveilleux.
Cy Twombly a toujours réalisé des sculptures dès son plus jeune âge. Longtemps, c'est resté un aspect très, très privé, très, très intime de son œuvre. Et puis, là, il y a eu la grande révélation à Bâle en 2000, lorsque Katharina Schmidt, qui était la directrice du musée à l'époque, avait organisé la grande rétrospective des sculptures, et où elle avait pu rassembler un nombre très, très imposant de sculptures originales, c'est-à-dire des pièces faites de briques et de broques,
d'objets de récupération,
d'objets de débris de récupération trouvés au bord de la plage, dans les rues. On reconnaît des caissons, des caisses d'oranges, des caisses d'olives, toutes sortes de choses qu'il rassemblait et qu'il unifiait par un badigeon blanc, simplement. Il disait que pour lui, le badigeon blanc, c'était son marbre.
Fait bon vivre. Et slouchet.
Un autre motif récurrent, Éric Mézil, dans les toiles de Twombly, c'est la coulure. Est-ce que c'est chez Twombly une sorte d'expression du hasard, un peu comme pouvaient l'être peut-être les drippings de Pollock? Est-ce que, d'une certaine façon, ça détermine une sorte de politique esthétique de la chute?
Oui, Je pense qu'on le voit très bien dans une série qui est consacrée à la guerre de Troie, qui est un chef-d'œuvre qui ne sera plus jamais remontré à Paris parce que l'œuvre est composée de plusieurs éléments et n'est jamais, enfin, elle est au cœur d'un musée américain, où on voit ces coulures apparaître. Elles apparaissent très vite, hein, dans l'œuvre de Twombly, mais elles sont là vraiment de manière... Enfin, au départ, c'était plus un espèce de jaillissement, et la couleur pouvait apparaître à cause du jaillissement. Après, elle devient vraiment comme un fait. Il y a ces dernières œuvres très très belles, je trouve presque diaphanes, où il n'y a presque plus rien, dans ces espèces de verres d'eau très 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 aqueuses, comme ça, très étranges, un espèce de verre un peu céladon, où il y a juste des espèces de on voit qu'il a pris un pinceau d'acrylique blanc, il a juste posé des espèces de splash comme ça en haut du tableau, et il a fait laisser couler comme ça cette peinture. Et c'est vraiment il y a du Baudelaire, où il y a de la destruction, mais il y a aussi, je pense, à Walter Benjamin, je pense qu'il y a vraiment cette idée effectivement de la destruction, ou d'une grande mélancolie, ou d'une comment représenter la fin d'un temps, un monde en ruine.
Outre les gribouillis, disons, Twombly parsème ses toiles de mots. Est-ce que ces mots, dont d'ailleurs la lecture n'est pas toujours possible, est-ce qu'ils permettent à Twombly d'injecter du sens ou des références dans ses œuvres, ou est-ce que ces mots deviennent finalement d'autres formes parmi les autres traces? Richard Lyman.
C'est un petit peu les deux, c'est-à-dire que on peut en effet prendre les mots comme des... et ce qu'ils sont d'ailleurs, hein, des traces du psychisme de Twombly, au même titre au fond qu'un gribouillis est une trace de son psychisme, sauf que c'est pas le même endroit, je dirais, du psychisme. D'un côté, c'est quelque chose qui se trouve en deçà du langage, en deçà de la pensée, et de l'autre, au fond, ce sont des restes plus ou moins conscients, disons, d'une culture absolument phénoménale. Wilder Shores of Love, qui d'ailleurs est exposé au Centre Pompidou, c'est Leslie Blanche, et là c'est toute une histoire c'est l'histoire des femmes qui ont trouvé sur les rives plus sauvages de l'amour un accomplissement qu'elles ne pouvaient pas trouver dans l'Angleterre, et c'est l'histoire de Twombly d'une certaine manière. Donc vous voyez, c'est les mots renvoient un sens qui chez Twombly doit être apporté à l'ensemble, c'est-à-dire au fond à Twombly lui-même. Mais ce qu'a réussi à faire Twombly, c'est à réconcilier l'idée d'un peintre littéraire avec un peintre authentiquement et purement pictural. Ça, c'est absolument fondamental. Twombly, c'est un poète. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, quand vous dites écrire et dessiner, il écrit au sens où un poète écrit, même s'il ne fait pas de poésie lui-même. Mais l'ensemble de ses tableaux, c'est une construction poétique.
Cet homme, il peut écrire n'importe quoi. Richard Wagner ou le Goethe, le troisième voyage de Goethe en Italie avec trois gribouillis, et ça fait rêver. Et c'est vrai qu'il a cette espèce de chose complètement étonnante de d'avoir, par cette écriture, par cette main, par ce graphisme, il ne supportait pas, il en avait marre qu'on dise toujours qu'on rapprochait beaucoup, par exemple, cette écriture très nerveuse, vibrante comme cela, à des écritures qui pourraient rappeler des graffitis de pissotières que l'on pouvait avoir soit dans les pissotières des 40-50 par exemple, ou bien sûr surtout celles qui étaient photographiées par Brassailles, ou celles qu'on avait retrouvées à Herculanum ou Pompéi. Peut-être qu'il y avait de cela, mais pour lui, c'était vraiment pas du tout cette logique-là qui l'intéressait. C'était vraiment par ces espèces d'états qui est dans lesquels il se mettait, je pense, de transe, hein, je crois, enfin comme un chaman devant sa toile. Tout à coup, l'écriture se libérait et libérait effectivement une propre écriture et une propre parole, celle de l'art, celle de la peinture. Les gens ont parfois vu peut-être le côté cru, de la crudité, bien sûr, hein, la crudité sexuelle. Et c'est vrai qu'il s'amusait beaucoup à dire, je me souviens devant Yvon Lamberg, il le répétait, chez nous, il n'est pas exposé à Beaubourg, ce fameux triptyque qui s'appelle Les Trois Dialogues de Platon. Et il y en a un pour Phèdre, avec un monochrome blanc d'un côté, puis un autre, une espèce d'éclaboussure de rouge et de marron. Et il disait à Yvon, dans le coin de l'oreille, comme un garçon qui avait fait pas une bêtise, mais qui n'aimait même pas trop dire ça. Il dit « shit, c'est la merde ». Et c'est vraiment, c'est bien dire que voilà, dans ce rapport amoureux, il y avait eu aussi, voilà, il y avait eu du sang dans l'espèce de viol, enfin le sexe comme ça, mais il y avait aussi de la merde. Et ça, c'était vraiment, il y avait ce rapport très, très charnel, physique, organique et très important. Mais après, par contre, on a des poèmes qui sont des odes à l'amour charnel ou à l'amour tendre, même des troubadours, qui est absolument pour moi, enfin, c'est somptueux. Ou c'est même dans les tableaux Blooming, les petits haïkus qu'il met sur l'amour, sur le temps, sont des purs enchantements. C'était un homme âgé, il se savait malade, et c'était triste à savoir parce qu'il en parlait très peu, mais il m'en parlait un petit peu de temps en temps. On parlait parfois de ses séjours à Boston, il retournait en chimiothérapie, il revenait. Il en parlait avec beaucoup de. Voilà, cette espèce de flegme anglo-saxon, merveilleux. Mais, et hop, il me dit, tiens, viens voir. Et tout d'un coup, j'arrivais dans l'atelier, il y avait huit tableaux sur l'amour. Et mon Dieu, quelle merveille.
Twombly, dès le début, il y a des figures qui sont très ambiguës. Il y a des titres qui montrent que cette question d'Eros, même si c'est toujours traversé par Thanatos ou d'autres... Là où ça commence à se spécifier un petit peu, c'est-à-dire à sortir un peu de l'orbite justement d'origine, c'est finalement le moment où il arrive en Italie, quoi. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, et en fond, c'est là où à partir du gribouillis initial vont commencer à se former des figures. Et ces figures, soit elles vont se développer comme des gribouillis qui sont un peu plus élaborés, soit ça va se développer comme des figures plus pictographiques, disons, c'est-à-dire des petits phallus ou des sexes féminins, par exemple. Alors, c'est toujours très troublant parce que les sexes féminins, il les fait comme des petits cœurs avec des petits trous, etc. Enfin, donc, c'est des choses, alors que les critiques n'identifient pas toujours, d'ailleurs, disant c'est des fleurs, enfin, c'est des cœurs, enfin, on ne sait pas vraiment, mais c'est non, c'est ça, c'est un signe masculin, c'est un signe féminin. Dans l'Iliou Persis, enfin la guerre de Troie. Donc les héros grecs sont figurés par des phallus qui sont montés, si je puis dire, sur des roues. Hein. La roue étant par ailleurs un autre signe de ce vocabulaire pictural. Mais quoi de plus économique finalement que de figurer un héros grec par un phallus Il y a d'autres signes, c'est-à-dire qu'il y a des signes féminins, et puis il y a des signes plus énigmatiques, qui sont ces espèces de petites figures quadrilobées, disons, enfin qu'on trouve dans... qui sont les shades, il intitule ça des ombres, finalement. Et quand on voit les déesses grecques ou les dieux grecs, par exemple, ils sont parfois figurés aussi par ces motifs-là. Donc c'est tout un vocabulaire pictural aussi, c'est pas seulement une dimension érotique. Il y a une dimension érotique qui est permanente, mais c'est pas forcément un Eros n'est pas forcément un dieu très, 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 très gay. Eros, ça peut être une part extrêmement sombre hein, aussi. Donc il y a aussi chez Twombly cette part, il y a à la fois la part pastorale, bucolique, mais il y a aussi une part beaucoup plus archaïque, comme on disait tout à l'heure.
Avec Harry Twombly, c'est que les années, enfin, il y a eu toujours un temps de maturation très très long, mais de décennies, en décennies, en décennies. À savoir qu'il a fait des premières photographies en 54 et elles ont été reconnues, on va dire, au début des années 2000. Il avait l'habitude de me dire, quand je l'ai beaucoup, moi j'ai beaucoup travaillé avec lui entre 2000 et la fin de sa vie, il me disait j'étais connu peintre à 60 ans. Sculpteur à 70 ans et photographe à 80 ans. Donc vraiment, il avait laissé le temps et la photographie, il en faisait toujours, pas comme une chose annexe, parce que c'était pour lui très important, mais il savait qu'on ne le regardait pas comme photographe et on ne s'y intéressait pas. Et c'est ça qui était très étonnant. Et en fait, c'est parce que j'avais fait une première exposition 2 ans avant de peinture, d'un cycle qui s'appelait Blooming, au centre Georges Pompidou, à l'exposition qu'il y a actuellement. Ça se termine presque par cela, par 2 énormes pivoines comme ça, qui sont sublimes, qu'il avait faites spécialement pour Avignon. Donc c'était un cadeau fait bien sûr avec pour Yvon Lambert, en hommage à une relation qu'il avait pu entretenir avec Yvon Lambert pendant toutes les années 70-80. Et un an après, j'étais allé le voir à Gaeta, je le voyais tout le temps, j'allais le voir pratiquement tous les 2 mois parce que je l'adorais. Et il était dans la voiture avec son assistant, on va dire, qui conduisait. Il mettait la musique très très fort. Et il tournait les chaînes de radio et il me disait « I want to be a DJ, I want to be a DJ ». Je peux vous dire qu'un homme de 82 ans qui vous dit « je veux être un DJ », je me disais « mais quoi parle-t-il ?» Et avec Saïd Tombly, il y avait toujours un discours codé, il fallait comprendre. Mais, voilà. Et donc il continuait « I want to be a DJ » et le chauffeur me regardait en me disant « mais presque, est-ce qu'il serait un peu sénile ou est-ce que… » Enfin, je dis « non, non, mais je savais très bien qu'il y avait autre chose ». Et je lui dis, mais tu veux dire que tu veux faire un peu quoi? Tu veux mélanger des choses? Oui, 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 c'est ça, t'as compris. Et je lui dis, pour vous, je ne comprenais rien, mais il faut que je comprenne. Et en fait, je lui dis, mais est-ce que tu voudrais faire une deuxième exposition? Ah oui, oui, oui. Et alors, on n'allait pas faire de la peinture. Et je lui dis, et les sculptures, c'était déjà très, très complexe, tant par les valeurs d'assurance, les transports et autres. J'aurais adoré. Hein. Il me dit, mais pourquoi on ne ferait pas l'exposition de mes photos? Et là, je le vois, mais perplexe, enfin, ravi et perplexe. Je lui dis, mais oui, mais bien sûr. Et il me dit, mais DJ. Et là, en fait, j'ai compris, en fait, ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait être commissaire d'exposition. Il était tellement modeste et tellement humble par rapport à ses photographies qu'il était hors de question pour lui qu'elle soit exposée seule. Mais il fallait qu'elle soit accompagnée d'autres photographes. Et moi, bien sûr, ça m'a régalé comme idée. Donc, tout de suite, je lui ai dit, je me souviens, on déjeunait tous les deux et dans ma tête tournait les images que je pouvais avoir sur de l'art. Et je lui ai dit, mais si on avait des photos de Rodin, il me dit, mais ce sera impossible. Et j'ai pu avoir. Et donc, on avait fait une exposition avec Rodin, Degas. Et en plus, c'était très, très beau. C'était que des artistes qui étaient peintres et photographes. Et qui avaient, par exemple, Rodin avait retravaillé à la gouache certaines de ses photographies. Brancusi avait fait la même chose. Donc, c'était des artistes comme ça. Et il avait absolument adoré l'exposition. Il est mort quelques semaines après.
Donc, un peintre-photographe, ce n'est pas pareil qu'un photographe uniquement?
Non, je crois pas. Parce qu'effectivement, c'était, on va dire. J'ai presque envie. J'ai jamais dit cette expression. Je ne sais pas si elle est juste, mais c'est un photographe pictorialiste. C'est comme on avait les pictorialistes à la fin du 19e siècle. C'est vraiment il était peintre même dans ses photos et il travaillait beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup ce travail qu'il faisait sur ces séries de 2 ou 3 où il jouait sur l'espèce de profondeur pour faire des soi-disant flous, mais qui n'étaient pas des flous. C'était la couleur qui l'intéressait et c'était la couleur qu'on allait retrouver le lendemain d'une peinture. Donc il y avait vraiment cette mise en relation directe entre la peinture et la photographie à chaque moment.
Nous sommes donc entrés dans la salle des bronzes antiques au Louvre, aujourd'hui vide, jour de fermeture, avec ce plafond de Twombly. Est-ce que vous pouvez peut-être nous le décrire d'abord, pour commencer?
D'abord, je suis très très contente de le revoir. À chaque fois que j'entre dans cette salle, j'ai une sorte d'éblouissement, parce que j'ai longtemps connu cette salle avec un plafond blanc, c'est-à-dire que c'était le seul plafond vide et blanc qui restait dans tout le Louvre ancien.
Marie-Laure Bernadac.
Et c'est une immensité de bleu, qui peut être aussi bien le ciel ou la mer. Et il faut dire que cette salle des bronzes grecs dans laquelle on est très longue. Elle est comme un long corridor, comme un long couloir, je crois 400 mètres à peu près carrés de surface. C'est très bien éclairé. On est dans l'aile Lescaut, qui est la plus ancienne du musée. Et sur les côtés, on voit des sortes de cartouches blancs avec des noms grecs. Et ces noms sont les noms des sculpteurs grecs, Scopias, Praxitèle et d'autres, Phidias.
Pourquoi Twombly ne reprend pas son écriture traditionnelle, cette écriture d'un geste comme ça, mais prend ici une écriture que peut-être vous pouvez décrire?
C'est des caractères grecs, genre bâton, hein, tout à fait lisibles. Bon, d'ailleurs, une des lettres grecques n'est pas conforme au dessin original. Et il a dit, c'est très bien, c'est une erreur, parce que si on fait une œuvre parfaite, les dieux la reprennent, tandis que s'il y a une erreur, elle reste humaine. Il m'a dit, c'est ma petite erreur, comme dans un grand tissu, il faut une petite erreur. Et tout autour de cette grande surface bleue, il y a une espèce de myriade de cercles qui peuvent être lus comme des pièces de monnaie, comme des boucliers, comme des planètes, dans des couleurs bleu foncé, ocre, bleu, enfin, différents types de bleu et de beige, et qui semblent flotter dans l'air. Donc c'est vrai que c'est une composition très simple, essentielle, et que moi, à chaque fois, je suis émerveillée.
Et vous, donc, vous qui l'avez connu...
Très peu.
À la fin de sa vie, plutôt à la fin de sa vie, un an avant sa mort, je crois. Est-ce que vous sentiez encore une énergie créatrice chez lui quand vous avez commandé ce plafond, Marie-Laure Bernadac?
Oui, parce que ça, c'était un peu la question, parce que c'est quand même toujours délicat d'embarquer un monsieur comme un peu âgé, un peu fragile sur des grandes commandes. Mais bon, comme vous le savez, il s'est fait aider par des assistants, il a fait la maquette, il est venu plusieurs fois surveiller et contrôler le travail des assistants tout en leur laissant pas mal de liberté. Donc ils étaient un peu inquiets, les exécutants assistants, de savoir... comment interpréter le changement d'échelle d'un geste sur une maquette à l'agrandissement. Bon, sans vous parler des problèmes techniques, parce que est-ce qu'il fallait que ça soit de la toile contrecollée, parce que finalement, on a fait une technique à l'ancienne, hein, c'est contrecollé directement sur le plafond. Mais il fallait voir aucun des joints, il a fallu faire un échafaudage. Bon, toute cette partie technique, il ne l'a pas suivie. Il a vraiment suivi la réalisation qui... On a loué un atelier pour avoir l'immense toile en plusieurs panneaux. Et quand les assistants étaient un petit peu gênés, ils disaient « Mais laissez-vous aller, allez-y !» Parce qu'il y avait des grands pinceaux. Et, « Allez-y, allez-y, dansez, laissez-vous aller !» Il y avait une espèce de très très grande liberté. Et quand j'étais dans son atelier à Gaeta, il venait de faire une dernière série qui s'appelait « Camino Real », en magnifique explosion de gestes, d'écriture sur... des contrastes de vert vif et orange, donc des contrastes très audacieux, encore plus audacieux peut-être que les fleurs. Ah, moi, j'étais complètement soufflée de voir qu'il y avait encore cette énergie-là.
Je crois que quand je dis personne, à part son ami Nicolas, je crois que personne n'a eu le droit de le voir peindre. Il ne supportait pas. Et je crois que c'était vraiment quelque chose c'était pas parce qu'il aimait la magie ou pas, c'était justement... Il m'avait dit une fois, c'est une chose assez drôle, parce que dans un des grands tableaux qu'on avait exposé, donc de cette série des grandes pivoines blooming, il y avait une pivoine où en hauteur, elle était un peu... comment dirais-je, le rond de la pivoine n'était pas très très rond, on va dire. Et il avait éclaté de rire, et parce que l'homme faisait 1m80, je sais pas, 7-8 je crois, et il pesait bien plus de 100 kilos, et il disait, ah, tu te vois, il va en anglais, espèce d'anglais très drôle comme ça, il me dit, mais tu peux imaginer que, comme j'étais sur les épaules de Tiger, c'est insistant, je pense qu'à un moment, j'ai dû tomber un peu. Et c'est vrai que, voilà, c'était des secrets de peinture qu'il n'avait pas envie d'évoquer, parce que je pense que c'était vraiment, il faisait une espèce de pirouette à monter sur les épaules de quelqu'un pour aller en haut de sa toile, et qu'il n'avait pas envie que ça se fasse. Et surtout, je pense c'était vraiment un acte complètement solitaire, et je pense c'est vraiment personnel ce que je dis, je crois, une espèce de transe intime, vraiment intime, donc intérieur, donc qui n'avait surtout pas à voir avec le regard de l'autre. Et puis en plus, c'était quelqu'un qui était vraiment très peu discret, enfin qui n'était pas dans le dialogue, mais on parlait, quand je venais, on parlait, j'irais, de la pluie, du beau temps, on faisait des choses comme ça. C'était très difficile, hein, d'arriver au sujet même par exemple, est-ce qu'on va voir les œuvres. Je me souviens, par exemple, Yvon Lambert, je me souviens la première fois, donc j'étais arrivé, enfin, il m'avait appelé, you can come tomorrow, tu peux venir demain, pouf. Donc d'Avignon, c'était pas facile de venir. Et je peux vous dire, j'ai trouvé tous les vols, tous les trucs pour me débrouiller pour arriver à Gaeta le lendemain ou peut-être le surlendemain, je ne sais plus. Et j'étais arrivé devant, d'abord, je ne savais pas qu'il avait loué ce premier atelier comme ça, immense, et je vois cette série, et presque comme le syndrome de Stendhal. J'ai été tellement interloqué, interdit, que je regardais les œuvres et j'étais muet, sidéré. Et lui, cet homme était d'une ultra sensibilité, une telle inquiétude qu'il se dit, bon, allez, j'ai compris, il n'a pas aimé. Et on déjeune et là, il n'y a pas eu un mot, rien. Il n'a pas dit un mot et j'ai senti que c'était vraiment un malaise complet. Et j'ai appelé Yvon Lambert, qui est à côté là, qui m'a enguirlandé comme rarement. Et il m'a dit cette phrase dont je me souviens toujours. Il me dit, maintenant, Eric, tu demandes à retourner au studio et tu fais la célèbre danse des sept voiles. Je me suis dit, je me raconte. Il me dit, tu vas danser devant les tableaux, tu vas lui dire qu'ils sont géniaux et tu recommences à zéro parce que tu as été nul. Bon. Et je lui propose à Saïd, je peux vous dire que c'était pas facile, et je dis à Saïd, bah écoute, ce serait bien quand même qu'on revoie les œuvres. Et c'est vrai que là, je pense qu'est revenu, j'avais eu le temps de mieux regarder ce que j'avais vu. Je crois que le cadeau qu'il m'avait fait était tel que j'étais vraiment interloqué. Et là, j'ai pu parler devant lui en lui disant, mais quelle merveille de voir ça, quelle merveille, mais ça c'est très très beau et tout. Et là, je sentais son souffle derrière mon épaule, ce qui était plus grand que moi. Et là, la joie et le plaisir. Et puis bon, là, on a passé une soirée merveilleuse. Mais c'était vraiment parce que l'homme pouvait inspirer, d'abord il pouvait être très très dur et très froid, mais aussi c'est qu'il avait, voilà, c'était quand même il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je suis à Gaeta, c'est à 2 heures près, entre Naples et Rome, au milieu de nulle part, il y avait un petit train qui amenait comme ça de Rome, et je me disais, mais personne ne sait que je suis là, et je suis complètement perdu avec le plus grand artiste du monde. C'est assez déstabilisant, enfin c'est assez fort, c'est merveilleux, hein, bien sûr, mais c'est complètement fou.
C'était important pour lui de recevoir les gens avec qui il travaillait dans son environnement italien, puisque vous y avez été reçu, mais plein d'autres gens.
C'est vrai qu'il a toujours été entouré, d'après ce que j'ai su, et où j'ai réalisé plus tard, d'un adeptes, ou pas, j'allais pas dire des groupies, mais des gens qui, tout de suite, comme Yvon Lambert, comme très tôt, ont adoré sa peinture. Elle a fait peur à un certain moment par ce côté élitiste. Les gens ont un peu trop reproché cette élitiste, peut-être sans doute à cause de toutes les références à l'histoire ancienne, mais pour moi je trouve que c'est une façon de récupérer, comme je disais tout à l'heure, toute cette culture, mais pour la rendre de la façon la plus émotionnelle et spontanée. Je crois que ce geste, c'est un geste qui vient du corps, donc son corps est très 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 présent, c'est pas une œuvre mentale ni conceptuelle, voilà. Et on le voit dans sa sculpture aussi, la façon dont il prend les objets. Et on a oublié de dire peut-être que pour ce plafond, une des sources, ce qui montre aussi la facilité avec laquelle il a trouvé ce motif, vient, il me l'a montré d'ailleurs, d'une estampe japonaise. Il regardait à l'époque des estampes japonaises, il a vu un bleu avec des cercles, bon, avec des fleurs, avec complètement un autre motif. Il a dit, mais ce genre-là, ça serait très bien. Donc il y a le bleu de Giotto, le bleu de cette estampe japonaise. Il m'a dit, voilà, les ronds, je les ai fait avec une bouteille et un verre. Les noms, je les voulais d'emblée. Il m'a dit, tout ça est venu de façon presque inconsciente, évidente. Donc ça, c'est aussi le grand art. C'est un petit peu pour ça aussi qu'on a reparlé de Roland Barthes, qui a dit justement la façon, ce côté zen un peu de Twombly, ce détachement, cette légèreté et la permanence. C'est-à-dire plus, moins vous vous montrez finalement, parce que finalement il est très discret, hein, complètement absent et présent, plus vous durez.
Je crois qu'il a été assez ému de savoir qu'il était le voisin ici au Louvre de Braque.
Ah oui, très.
Pourquoi ?
Tout de suite. Ah, parce que d'abord, ce plafond de Braque, on a beaucoup décrié. Si vous avez vu, moi j'ai retrouvé les critiques de l'époque, c'est absolument terrifiant. Alors que nous, ça nous paraît d'un classicisme absolu. Ces oiseaux qui flottent dans le bleu, c'est du Braque de la fin, du Braque très, très, très. Et les gens ont hurlé. Le pauvre Georges Sack qui avait commandé ça, s'est fait traiter de tous les noms. Donc je crois qu'il est. L'idée d'être après Georges Braque et dans les deux grands plafonds peints par un artiste contemporain, chacun un peu la fin de leur vie d'ailleurs. Braque, c'était la fin, lui aussi, Twombly, puisqu'il est mort, hélas, très vite après. Je crois qu'il aimait la salle aussi à cause de la collection. Il aimait le Louvre. Il rappelle que quand il était en France, il fréquentait bien sûr le Louvre. C'est un amoureux de l'art antique, de la peinture ancienne. Il il est totalement issu de cette culture classique. Hein. C'est pas pour rien qu'il vit en Italie, il était dans ce triangle, Paris. Donc, il avait. C'est une des raisons, encore une fois, qui nous. C'est pas un peintre américain. Pour nous, c'est un peintre qui va bien au-delà de l'Amérique. Donc, c'est un peintre qui est l'héritier de cette grande culture gréco-latine, pour aller vite, qui est un des fondements et des bases de la collection du Louvre.
Pourtant, c'est justement à la fin de sa vie qu'il va faire des tableaux, on pourrait dire. Pop, en tout cas plein de couleurs, c'est un peu étonnant.
Complètement étonnant. Dans la série des photographies, pour moi, à Le Temps Retrouvé, il avait choisi de terminer. Moi, j'avais terminé par des photographies très belles de Miramare, de la plage en face du restaurant où il va manger tous les midis depuis 50 ans. Où il y allait comme ça, c'était vraiment où il y avait juste des parasols. Ça faisait penser à du Visconti, mais ça faisait penser à Eugène Boudin, enfin à plein d'artistes, par exemple. Mais il avait terminé par des photographies d'horribles petites pâtisseries qu'il avait trouvées à Boston où il faisait sa chimiothérapie, des espèces de pâtisseries kitsch colorées avec des petits personnages qu'il avait pris, mais vraiment en très gros plan. Et c'était des photographies mais complètement pop, mais que je pense que Jeff Koons ou Warhol auraient été jaloux de voir tellement elles étaient géniales, et qu'un enfant de 15 ans, ou 8 ans, adorait faire en rigolant. Et c'était vraiment une série de il adorait ça. Et c'est vrai qu'on voit effectivement, comme vous le dites, dans sa vie, à la fin de sa vie, la palette des couleurs avait des couleurs vraiment, excusez-moi l'expression, qui dégueulent, parce que c'est vrai qu'il y a des espèces de des fonds verts avec des orangés et rouges qui sont, mais, et il est complètement libéré. Et c'est vrai que peut-être que quand il dit qu'il n'aime pas la couleur, c'est qu'il s'en fiche. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il se fiche ce qui était merveilleux, c'est que le bon goût, mais qu'est-ce qu'il s'en fichait, quoi. Et c'est lui qui l'imposait, le goût. Enfin, il a inventé un goût, mais le bon goût, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui, quoi. Et ça, c'était merveilleux. Ça, c'était, enfin, ça, pour moi, c'était vraiment la leçon, une leçon de liberté. Voilà.
Je suis allée à Gaeta, où il m'a reçu merveilleusement pendant 3 jours. Il était gai, joyeux, aimant manger. On ne parlait que de choses très légères, on ne parlait quasiment pas d'art. On parlait de la vie quotidienne, de l'Italie, de ce qu'on aime. Donc c'est finalement quelqu'un qui n'était absolument pas ni pédant, qui avait cette immense culture, mais justement jamais étalée, hein, avec justement cette retenue magnifique, mais un personnage totalement attachant, dont on tombait vraiment amoureux, parce que le sourire, je crois qu'on le voit sur une photo, je veux dire, c'est quelqu'un de très très accueillant, très. Et avoir un peu 3 jours, cette sorte d'intimité avec l'homme, parfois, il y a une différence totale entre l'homme et l'œuvre, mais là, du coup, la connaissance de l'homme m'a permis de comprendre encore mieux l'œuvre, qui finalement est une œuvre terriblement émotionnelle, au fond. Et cette explosion de vie que sont les pivoines, je crois que justement la fin de son œuvre est une façon d'éclairer un peu son parcours.
Pour le jour du vernissage à Avignon, on avait fait un grand dîner la veille et le lendemain, un repas dans le jardin chez Yvon Lambert. Et comment dirais-je, j'avais réussi, mais c'est des choses qui sont un peu inouïes, mais qu'on fait sans s'en rendre compte, à réunir son fils, sa femme, les enfants, ses petits-enfants, tous ses amis, ses marchands, des collectionneurs, Yvon Lambert bien sûr, sa famille, enfin, on était une cinquantaine, mais de gens les plus intimes, on va dire les plus proches. Et quelques mois après, il avait fait un repas pour m'inviter, moi juste et Yvon Lambert, à côté de Gaeta. Et il m'avait dit, Eric, mais ce repas, c'était comme le jardin des Fiti Contini. Et je me suis dit, Eric, je connais ce livre par cœur et le film par cœur. Mais je me suis dit, ne pose pas trop la question, puisque vous vous souvenez peut-être que c'est ce merveilleux roman ou ce film joué par Dominique Sanda, où on voit ces aristocrates, je crois que c'est à Turin que ça se passe, qui sont très riches comme ça, qui ont un ami très jeune, qui découvre ce monde, et en fait ces gens vont partir, vont être exterminés, enfin vont partir dans les camps, et c'est vraiment le début de la fin. Et en fait pour lui, quand il me disait ce déjeuner c'était comme le jardin des Fini Contini, c'était pour lui il savait que c'était le dernier grand déjeuner, parce qu'il savait qu'il allait bien sûr mourir bientôt, et que c'était le dernier moment de grand plaisir où toute la famille était réunie. Et j'avais mes larmes aux yeux, et je me disais c'est vraiment quel homme, c'était un homme qui avait une classe folle. Thank you.
Cy Twombly, l'art est un poème. Avec Marie-Laure Bernadac, Richard Lehmann, Éric Mézil et Jonas Torsfi. Mixage Julien Douminc, attaché de production Claire Poinsignon, coordination Irène Omelianenko, réalisation Gaël Gillon, un documentaire de Julien Rosa.
Une rétrospective des œuvres de Cy Twombly est visible au Centre Georges Pompidou jusqu'au 24 avril 2017. Le cycle Orphée jusqu'au 18 février, Galerie Gagossian. Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter. Dans quelques instants, le temps des écrivains. Et la semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss.